Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Flora Messi.
Il est 11h04, vous êtes bien sur RMC, on est de retour dans les grandes gueules du sport avec Alizé Cornet, avec Fred Weiss, avec Christophe Cessieux. C'est la dernière heure et on parlera tennis dans quelques instants avec la si contestée bataille des sexes qui nous attend demain entre Aryna Sabalenka et Nick Kyrgios. Et on t'amènera bien sûr par les jeux du sport. Je sais qu'ils sont très impatients de jouer tout à l'heure.
Avec trois là, bon, il faut qu'on trouve un partenaire là. Qui veut se dévouer pour jouer avec nous?
Écoute, tu veux qu'on cherche quelqu'un? Ça va être compliqué,
personne,
tu sais, on est en cette période défaite. Il n'y a pas grand monde non plus.
Mais t'as tellement fort, Christophe, tu peux jouer tout seul.
Et d'ailleurs, on vous attend au 32-16. Vous ne jouez pas pour rien aujourd'hui, puisqu'on vous fait gagner un PC portable Altix 16 pouces garanti 3 ans. Altix est une marque française d'ordinateurs installée à Nantes avec un ancrage local. Leur mission est simplifier l'achat d'un PC pour les personnes non initiées à l'informatique. Pour remporter votre PC, vous appelez le 32-16 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16, le vainqueur des jeux du sport tout à l'heure repartira avec son PC portable. Mais d'abord, on va ouvrir tout de suite le vestiaire des GG.
RMC, le vestiaire des GG.
Ça ne vous a pas échappé, nous sommes en pleine période des fêtes. Pour la plupart d'entre nous, on a passé beaucoup trop de temps autour de la table à avoir un coup de fourchette bien trop prononcé, et je ne parle même pas des coups dans le nez, n'est-ce pas Christophe? Ni même encore des couchers à plus de 8h du matin, n'est-ce pas Fred?
Oh oui.
Qui ne dort pas. Mais nous, en même temps, on n'avait pas un match le lendemain et encore moins le jour même. Mais alors, comment font les sportifs de haut niveau? Font-ils vraiment la fête? Se privent-ils au quotidien de ce genre de rassemblements familiaux ou même entre amis? Et est-ce forcément synonyme de sacrifice? On parle évidemment de cette période des fêtes, mais c'est valable aussi pour le reste de l'année où on rate parfois des mariages, des anniversaires, autres. Alors les GG, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur le sujet? Est-ce que vous avez fait des sacrifices comme ça pendant votre carrière? Fred, toi d'abord, parce que tu joues évidemment avec le basket pendant la période des fêtes généralement. Comment ça se passait?
Ça se passait très bien. Moi, je pensais, en fait, depuis le départ, j'ai pensé que c'était normal, moi, en fait. Tout petit, on nous avait éduqués comme ça. On joue à cette période-là. Oui, parfois, on rate des événements familiaux. Oui, parfois, c'est dur. C'est dur quand tout le monde fait la fête et que tu dis, bah, alors déjà, je vais pas manger beaucoup. Je vais rien boire. Et en plus, je vais partir à 15 heures alors que ça, tout le monde commence à faire la fête. Donc, c'est évidemment pas facile. Mais tu sais pourquoi tu le fais.
Ouais.
Tu sais pourquoi tu connais ton objectif. Tu sais que, effectivement, pendant un moment, ça va être difficile, mais ça fait partie de ton métier. Tous les métiers ont des contraintes et on va pas se plaindre de jouer. En fait, nous on joue au basket. Donc on va pas se plaindre de faire le métier de nos rêves et d'être sur la route. Alors oui, encore une fois, quand t'as des enfants, ça devient encore plus compliqué forcément. Mais moi j'ai pas de souvenir d'avoir fêté mon anniversaire, c'est le 22 juin d'ailleurs, Flora, si tu veux me le souhaiter.
Je note.
T'as un 22 toi aussi.
J'ai pas souvenir de l'avoir fêté avec ma famille. J'ai souvenir de l'avoir fêté en équipe de France. Oui. Parce que c'est la période où on est tous rassemblés, parce que c'est la période où tu dois partir, tu dois préparer des compétitions.
Et sans faire la fête, j'imagine, quand t'étais en équipe de France.
Quand t'as de la chance, quand tu t'entends bien avec les mecs de l'équipe de France, ils te font un petit gâteau à la fin. Et si tu t'entends pas
tu
bien,
l'as mangé ou pas?
Alors oui, je l'ai mangé, mais on le partage, quoi.
En fait, t'es en train de nous dire que dans le monde du basket, personne ne fait jamais la fête en période de match, que vous êtes des
on est plutôt sérieux. Très objectivement. Alors évidemment.
Mike James à Monaco notamment.
Évidemment, mais encore une fois, vous êtes en train de me parler d'épiphénomènes. Moi, je vous parle de la généralité. Nous, on n'a pas cette culture de la troisième mi-temps que peut avoir le rugby. On est des gens sérieux et professionnels. Et donc, effectivement, quand on joue, quand on travaille, quand on a des matchs qui suivent, il est très rare que l'on sorte. Oui. Alors, je dis pas qu'on fait pas d'excès. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est souvent après les matchs, quand on a un peu de repos après, et on a conscience de. Ben, on est des professionnels, on doit essayer de faire attention. Encore une fois, je suis en train de parler d'une majorité. Je suis pas en train de dire que tout le monde le fait. Mais je dis juste que dans la majorité, dans le basket, c'est un peu notre façon de voir le sport.
Quand tu écoutes Fred, t'as l'impression que le basket, c'est le sport
c'est le sport ultime. Tout est bien.
Tout est parfait. les gens sont sympas avec leurs compagnes. Ils sont professionnels. Ils font le bien sur la terre. Ils transportent
c'est exactement ça, en fait. C'est pas Fred, c'est juste une réalité que je suis en train de décrire. Évidemment, quand on vient dans un sport où les valeurs sont différentes, je peux entendre que ça soit compliqué à comprendre.
Mais être un moine qui part en Afrique, qui va évangéliser déjà, le monde du sport
Moi,
je trouve ça très bien.
On est dans ce vestiaire pour parler de nos cas personnels. Et dans mon cas personnel, moi, déjà, je bois pas d'alcool. Donc, ça réduit un petit peu le risque.
Oui.
Si je découche le lendemain, il me faut une semaine pour m'en remettre. Et donc, c'est ça toujours été très compliqué pour
mais je suis conscient de ça. Tout le monde est comme ça quand même.
Je suis pas en train. Tu n'écoutes pas.
Grande majorité.
Je pense que oui, de plus en plus. Oui, on est de plus en plus sérieux.
Tu as parlé d'alcool, mais il n'y a pas que ça quand on parle d'excès. Alors, évidemment, l'alcool est une part importante.
Bien sûr.
Mais il y a évidemment la nourriture. Alors, la nourriture, le régime alimentaire.
On joue souvent pendant les fêtes. Et donc, tu vas prendre quoi 2 kilos, tu t'entraînes 2 heures, c'est fini. Hein. Donc, c'est l'avantage aussi d'avoir des sports qui ne s'arrêtent pas pendant les trêves, parce que finalement, tu t'arrêtes quasiment pas. Tu as très peu de temps
pour choisir une famille qui va vous unir quelque part. Le tennis et le basket. Je me rappelle d'un certain Yannick Noah à la grande époque qui était quand même réputé pour être plutôt fêtard.
C'était il y a 50 ans, Christophe.
C'était un
C'était il y a 50 ans.
Ouais, les choses ont. Nous, on est.
Est-ce que son fils avait la même réputation que lui
Alors, c'est un très bon exemple parce que, justement, il était très sérieux quand il était à Chicago et il a vu beaucoup de lumière quand il arrive à New York.
Ah oui, c'est ça.
Et là, il s'est rendu compte que faire la fête, ça peut être sympa, que New York, pour faire la fête, je pense qu'il y a pire. Donc, je pense qu'il s'est laissé absorber par ça. Mais justement, c'est ça qui fait la différence.
T'es moins tenté que
toi.
Et à Oklahoma City aussi.
Alizé. Est-ce que tu vis en contre partie, de toute façon, ça rachète tous les sacrifices. Moi, j'appellerais même pas des sacrifices, ça fait complètement partie du jeu.
Ça, c'est important. C'est une question que j'allais poser
Benoît
aussi, justement.
C'est vraiment, ça vaut tellement la peine, en fait, de par le fait que tu fais ton sport et ta passion tous les jours.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que j'allais te poser justement cette question-là, parce qu'on parle du basket, mais le tennis joue en permanence. Vous êtes non seulement en train de jouer en permanence, mais en déplacement en permanence, donc loin de vos familles aussi en permanence. Ça veut dire aussi une forme d'isolement qu'on peut mal vivre aussi, de passer à côté de certains événements. Mais t'arrives à nous dire que finalement, toi, c'était pas un sacrifice. T'arrivais justement à trouver une contrepartie nécessaire et suffisante dans ton sport à côté.
Je dis pas que ça me fendait pas le cœur à l'occasion de temps en temps de rater des grands événements, que ce soit familiaux, des mariages. J'ai raté la thèse de mon frère par exemple, et d'autres moments très significatifs dans ma vie où j'étais en tournoi en Chine, en Australie ou ailleurs. Mais c'est vrai qu'en fait, déjà c'était mon choix, personne ne m'avait forcé à le faire. Je savais pourquoi je le faisais, j'étais possédée par le tennis depuis mon plus jeune âge. Et du coup pour moi il n'y avait pas d'autre option. En fait je ne me donnais même pas le choix. Le tennis était toujours prioritaire, je pouvais être professionnelle à ce prix-là. Et le prix j'étais très contente de le payer. Après si je m'attardais un petit peu là-dessus, c'est vrai qu'il pouvait y avoir une certaine forme de frustration. Mais elle était évacuée tout de suite par le fait que il fallait que je prépare mon match. Il fallait que je reste dans ma mission, dans mon objectif.
Oui, t'étais focus sur autre chose.
Moi,
en fait.
Après, moi, je suis pas peut-être un bon exemple parce que j'étais vraiment, j'ai poussé les limites moi du sérieux très très loin. Aussi parce que dans le tennis, on peut pas se permettre de sortir, de faire des excès parce qu'en fait, on joue toutes les semaines. Donc au final, chaque excès, on va le payer sur la semaine d'après et à un moment donné, on va plus réussir à récupérer. Comme toi, Fred, moi, j'ai jamais bu d'alcool et c'est marrant parce que j'en bois toujours pas.
Donc, oui, le fait d'arrêter.
Ah bon, t'es sobre là.
Pour choisir le thème de la fête, je pense qu'on n'a pas choisi.
Ce serait intéressant d'avoir d'autres témoignages avec des gens qui se laissent un petit peu plus aller et pour voir en fait où est-ce qu'ils se mettent leurs limites. Moi, ma limite, elle était vraiment très basse. J'essaie de pas me coucher trop tard.
Tu t'autorisais pas des. Ouais.
Voilà, avec la bouffe, c'est encore un peu différent, mais comme tu le dis, on peut se permettre finalement, on brûle tellement de calories, on est tellement actif que autant ne pas en faire un combat de tous les jours à la Novak Djokovic parce que ça peut vite devenir un calvaire. Mais après, tout ce qui est, cigarettes, alcool, il y a des limites à avoir. Moi, je me les suis données très strictes, mais je pense qu'il y a d'autres joueurs qui poussent le curseur un peu plus loin, qui se permettent des excès, et ce serait intéressant de voir comment ils gèrent finalement les jours d'après. Comment
mais il y a des machines aussi. Moi, j'ai connu des machines.
Ah oui, des métabolismes incroyables.
Je vais citer un joueur qui s'appelle Jean-Marc Crédit, qui jouait avec moi, et lui, il pouvait sortir tous les soirs. Le lendemain à l'entraînement, c'était le premier tout devant, en fait.
Mais il l'a jamais payé avec des blessures ou quoi.
Il l'a jamais payé, en fait.
Il y a des joueurs qui le payent sur le long terme. Ça veut dire que tant qu'ils ont 20, 25 ans, 28 ans, ça passe.
Je suis d'accord.
Et puis après, passé un certain âge,
il n'a pas eu la carrière qu'il devait avoir. Ça, c'est vrai.
Voilà,
mais par contre, il
n'a
pas eu de blessure. Ouais. Mais à un moment, si tu ne t'astreins pas à quasiment être un moine, c'est très compliqué de performer.
Mais vous savez, il y a un certain plaisir à avoir cette vie aussi.
Moi, je prends
du plaisir à avoir cette vie. Et d'ailleurs, j'ai toujours plus ou moins le même cadre, finalement, maintenant, alors que je suis à la retraite depuis un an et demi.
Ce matin, elle est arrivée avec le petit déjeuner, c'était pain sec et eau. C'était extraordinaire. On a fait une œuf teuf ce matin.
Et puis, elle a dormi au monastère la nuit dernière.
Ouais,
elle est arrivée après les vêpres.
C'est ça votre problème, c'est que vous prenez l'extrême opposé. C'est pas forcément l'image.
Ils ont aucune modération. au-delà, c'est les pires. Voilà. Non, je dis juste que avoir un cadre au quotidien, c'est aussi quelque chose qui
donne rassurant.
Qui donne une direction, qui est rassurant. Mais
sortir de temps en temps du cadre, c'est rassurant aussi. C'est pour ça que les fêtes, tu peux faire quelques excès. Parce que tu vas le payer. Évidemment. Oui, ça va être dur. Oui, mais tu le sais. Et de temps en temps se dire, je me fais un petit, c'est un peu comme les cheat meals.
C'est
un peu le même principe. Tu te fais un cheat meal parce que c'est bon, j'en ai marre de manger toujours des pâtes et du poulet, quoi.
Mais c'est très important de se donner du mou et de se donner de la liberté. C'est évidemment un équilibre à trouver.
Vous avez été aussi des ados sportifs. Est-ce que quand on est ado et sportif de haut niveau, on ne sacrifie pas une part de sa jeunesse justement, de pas aller faire la fête avec les copains, peut-être. De pas faire des week-ends avec les potes.
Peut-être, j'ai pas eu cette sensation.
Non,
je me suis pas posé la question.
C'est pas un regret pour toi. De toute façon, t'es rentré dans ton tunnel. Tu voulais être championne de tennis. Tu l'as été.
Mais j'étais complètement consciente que ce que je vivais sur un terrain de tennis quand à 15, 16, 17 ans, je rentrais sur un terrain sur le Philippe Chatrier à Roland-Garros, qu'il y avait 0,00001% des adolescents dans le monde qui vivaient ce que je vivais. Et donc pour moi, c'était.
T'avais cette conscience-là, quoi.
Mais oui, c'était amplement, on va dire, compensé.
C'est là qu'elle est plus mature que moi.
Émotions.
Moi je l'ai, parfois, c'est difficile. Après, dans les relations humaines aussi.
Et
avec,
toi, tu faisais un sport co.
Et oui,
moi, j'étais dans mon monde, dans ma solitude, dans mon
sport. Je sais pas comment. Moi, sur un sport co, j'aurais pas pu ne pas faire un sport co parce que justement, ça te permet d'être avec une équipe, avec des gens, d'avoir des relations avec les gens. Parce que sinon, quand tu fais un sport co, t'es tout seul complètement. Tu es obligé de te gérer. Honnêtement, ça aurait été très compliqué.
Il faut être solide psychologiquement.
Très solide psychologiquement. Et je sais pas si j'aurais pu le faire parce que c'est vraiment des sacrifices quand même.
Et nous, dans le tennis, on a tendance à être quand même assez précoce. On peut être très fort, très jeune. Donc il y a intérêt à être quand même convaincu de ce que tu fais.
Et ça passe vite.
Et ça passe beaucoup trop vite.
Et t'as des copines qui étaient un peu dans le même mode de vie que toi. Donc,
mais oui, mais chez les filles,
et qui derrière se sont lâchées total.
Ouais, j'en ai une en particulier, mais je peux pas citer son nom.
Ah bah si, là, on est obligé, on est dans le vestiaire.
Non, je peux vraiment pas pour le coup. Mais oui, je connais des filles qui ont accumulé une sorte de. Alors, je pense pas que sur le moment ce soit de la frustration ou qu'elles s'en rendaient compte, mais la sensation de passer à côté de quelque chose dans sa vie, de passer à côté de sa jeunesse, de passer à côté de beaucoup de choses dues au sport, et qui plus tard finalement ont une sorte de révélation et un peu de pétage de plomb, on va dire, éphémère, parce qu'après tu reviens à ton rythme de vie normal. Mais est-ce que c'est sain, est-ce que c'est pas sain quelque part d'avoir aussi cette révélation en se disant putain, mais j'ai pas envie de me réveiller à 50 ans en me disant que j'ai raté ma vie. Voilà,
mais bon,
je l'ai pas eu pour le coup parce que je pense que j'étais vraiment en accord.
Ouais, mais peut-être que ça peut venir
plus
encore.
Plus tard,
mais il y a des gens qui veulent rattraper leur jeunesse, souvent les sportifs, moi j'en connais pas mal qui ont voulu justement, qui étaient hyper carrés, hyper stricts pendant leur carrière. Qui, quand ils ont arrêté, ils se sont dit, allez, la fête à outrance, je me fais plaisir.
L'effort était trop.
En fait, c'était pas leur caractère. En fait, je pense que toi, t'as eu cette chance, c'était dans ton caractère, dans ton ADN, cette volonté de performer, de faire tous les efforts nécessaires. D'autres ont été contraints de les faire. Ouais. Et donc, quand il y a cette contrainte pendant 15, 20 ans pour certains,
tu
le vis pas pareil et t'as envie de rattraper un peu le temps perdu.
Moi, la raison pour laquelle, ce qui m'a fait un petit peu arrêter à la fin de ma carrière, c'était quand même la lassitude de ce mode de vie dans le tennis.
Oui, donc ça a joué quand même aussi.
Oui, à la fin, mais pas forcément sur la discipline et cette envie de performer, mais plus sur la vie familiale, les voyages, le fait d'être tout le temps loin de chez soi. À un moment donné, je pense que mes résultats ne justifiaient plus finalement cette lassitude. Quand on
l'équilibre était plus
j'avais
bon.
J'avais été top 50 toute ma carrière, donc finalement j'ai trouvé mon compte. dans les hits. Après, quand mon classement a commencé à reculer, ça ne justifiait plus. Finalement, quand j'ai été 100e mondial.
Ouais,
110,
enfin, t'es
120.
Quand même revenu, t'as quand même fait un petit comeback.
Ouais, mais juste pour quelques mois et juste pour le plaisir, et c'était pas du tout dans le même état d'esprit au final. Mais ça ne justifiait plus tous les sacrifices au quotidien, le fait d'être loin, le fait de jamais voir ses amis, sa famille. Et je pense qu'à 35 ans, on n'a pas les mêmes aspirations qu'on a à 15, 20, 25 ans.
Je te rejoins complètement. C'est vrai que quand tes performances sur le terrain, sur le court, sont plus les mêmes. C'est vachement plus difficile de se dire, je vais faire attention à moi, je vais me coucher plus tôt, etc. Parce que quand t'es le meilleur, quand t'es bon, quand tu domines, tu te dis, je fais des sacrifices, mais c'est normal, c'est récompensé sur le terrain. Ouais. Sauf que quand tu vieillis, c'est plus dur, quand t'as mal tous les matins partout, tu te dis, mais pourquoi je fais tout ça, en fait? Et c'est peut-être la période où tu commences à songer à t'arrêter, à commencer à faire des bêtises, à sortir un petit peu plus, à être un petit peu plus fatigué, tu récupères moins, tu fais moins attention, et le cercle vicieux qui commence à débuter, en fait. C'est-à-dire que t'es moins performant, tu fais moins d'efforts, donc t'es moins performant, donc tu fais encore moins d'efforts, et ainsi de suite, et c'est le moment d'arrêter en général.
Et du coup, pour revenir à la question qui était quand même comment gérer les fêtes, c'est vrai, tu les gérais comment, toi? Parce que il y a quand même cette tentation de...
Est-ce que vous faisiez quand même plaisir
au moins symboliquement? Moi, je sais que le plus important pour moi, et je pense pour un athlète, pour éviter les blessures, c'est quand même de limiter la consommation d'alcool. Mm-hmm. Parce qu'on sait à quel point ça peut être traître. Moi, c'était pas un problème. Après, concernant la nourriture, je me suis toujours fait super plaisir. Alors qu'en plus, j'étais en pleine période foncière. Je venais de faire 3 ou 4 semaines d'entraînement à fond. J'étais sur le départ pour l'Australie en général à cette période-là. Mais peu importe. En fait, là, c'était vraiment mon moment lâcher prise où avec la nourriture, j'y allais et j'avais pas envie de me restreindre.
Je profitais des instants que j'avais, en fait. C'est-à-dire que si c'était 2 heures, je faisais 2 heures avec la famille. Je profitais. En fait, j'ai une famille assez jeune, donc ça m'a permis
J'étais
papa assez jeune, donc j'en ai profité pleinement parce que moi c'était dans mon ADN d'avoir un enfant assez rapidement. Et donc moi, rien que de profiter d'être avec mon fils, d'avoir des moments, de pas partager n'importe quoi. Moi, je pouvais manger une pizza à Noël sans aucun problème parce que c'est, pour moi, ça n'a pas de signification. Ma priorité était de partager ces quelques moments. Et je me suis rendu compte surtout que ces moments étaient devenus des moments de qualité. C'est-à-dire, oui, c'était moins nombreux, mais j'essayais, en tous les cas, à chaque fois, que ce soit des moments de qualité. Profiter de mon fils, être avec lui, faire des choses avec lui.
On va pas ouvrir un comptoir de psychologie là maintenant, mais est-ce que ça t'a pas fait rater aussi des événements avec ton fils, justement, le sport? Et est-ce que ça a été un regret par la suite pour toi?
Oui, parce qu'en plus, moi, j'ai eu des relations compliquées avec mon fils, parce que mon fils est autiste, et c'est vrai que j'ai eu un moment un peu compliqué, mais bien sûr, mais encore une fois, moi, je le savais dès le départ, je savais que ça faisait partie du jeu, et j'essayais de compenser au maximum par des moments de qualité.
T'as beau connaître les règles du jeu, on le verra tout à l'heure dans les jeux du sport, quand on n'est pas gagnant à l'arrivée, ça reste très frustrant, mine de rien. Donc on a beau savoir que dès le départ, ça fait partie du jeu de ne pas avoir sa famille quand on veut, de ne pas pouvoir faire les excès qu'on veut, de ne pas avoir la vie de quelqu'un de lambda, finalement, ça n'empêche pas la frustration.
Flora, j'ai un de mes amis qui est philosophe et qui me dit toujours: quand on fait du sport, on vit des choses que les autres n'ont pas la chance de vivre. C'est-à-dire que on est dans un seuil de folie, de moments incroyables, de très haut ou très bas. C'est-à-dire que quand tu gagnes, t'es très en haut, et quand tu perds, tu es très en bas. Et à partir de là, tu te dis, tu vis des choses qui sont extraordinaires. Et j'avoue que ces moments extraordinaires de vie de sportif, tu sais que ça va s'arrêter un jour. Ouais. Donc tu sais qu'il faut en profiter au maximum. Et je dis pas que ça compense, parce que c'est pas vrai. Tu ne compenseras jamais la présence avec tes enfants et ta famille. Mais par contre, ça t'aide à passer à autre chose. Ça t'aide à, justement, ces embûches, entre guillemets, de la vie. Ça peut te permettre que ce soit un peu moins dur.
Par contre, c'est un vrai débat, Flora, le fait que parfois être sportif de haut niveau, notamment pour les femmes, ça peut reculer, on va dire, un désir de maternité, par exemple. On l'a vu que chez certaines joueuses, c'était un vrai sujet.
Il y en a qui ont arrêté, qui ont fait une pause et qui sont revenus ensuite.
Oui, mais il y en a qui aussi préfèrent faire leur carrière d'abord et du coup repoussent cette envie de maternité, d'avoir des enfants. Et au final, ça devient une souffrance. Et ça, je pense que c'est un désir tellement profond. Toi, tu vois, tu l'avais quand tu étais jeune et tu as pu le réaliser. Parce que finalement,
mais moi j'ai la chance,
tu n'étais pas enceinte.
Un garçon.
Et oui, et du coup, tu as pu continuer à faire ton sport. Mais quand on est une femme, c'est vrai que là-dessus, il faut quand même trouver le bon équilibre entre continuer à vivre de sa passion, mais ne pas repousser des choses qui ne sont pas rattrapables.
Et c'est une forme de sacrifice aussi. Donc tu as raison de l'évoquer parce que évidemment. Les femmes, là, tu parlais des règles du jeu qu'on connaît, c'est des règles du jeu que les femmes sportives connaissent aussi dès le départ, avec évidemment le risque que ce soit trop tard une fois qu'on arrête la carrière. Est-ce qu'on se dit, est-ce que j'arrête pas trop tôt aussi alors que je suis au plus haut niveau? C'est des vraies questions qui doivent trotter.
On a progressé
aussi,
quand même, et heureusement on a progressé sur la maternité pour les sportives, parce que maintenant certaines filles ont joué, ont fait des Jeux Olympiques en étant enceintes, etc., ce qui n'était absolument impossible à l'époque.
Et ça, c'est une très bonne chose. On fait une pause, je pense à Clarisse Agbenienou par exemple. Qui a fait une pause, qui est revenu, qui va refaire une pause là pour avoir son deuxième bébé. Ça reste que malgré tout des exceptions, parce que au-delà du, on peut ouvrir le débat tant qu'on veut et être d'accord avec ça. On n'est pas certaine quand on s'arrête finalement de revenir au même niveau que là où on était
évidemment,
avant.
Évidemment.
Donc c'est une grosse part d'incertitude qui joue beaucoup.
Mais dans le tennis, on a vu quand même maintenant plusieurs joueurs réussir à le faire et c'est rassurant. C'est rassurant. Mais c'est vrai que la WTA a mis en place des choses incroyables là, ces derniers temps avec un congé maternité qui permet aux joueuses de continuer à toucher un salaire. Parce que nous, dans le sport, dans le tennis et dans ce sport individuel, si on joue, on gagne de l'argent, mais si on joue pas, on gagne plus d'argent. Il y a pas, c'est pas comme un sport co où on a un salaire garanti. Et c'est vrai que là, ils ont mis cette garantie en place pour les femmes qui leur permet de construire une famille en toute sérénité sans se dire, bon, bah voilà, je vais être dans le dur.
Et tu gardes ton classement aussi?
Oui, il y a un classement bloqué et un congé maternité. Du coup, ça donne mais c'est tout récent hein, et ça donne cette liberté aux femmes d'être maman en carrière. Et après, alors si elles vont revenir au plus haut niveau, bah ça dépend pas que d'elles, ça dépend comment elles récupèrent et tout ça. Mais au moins, elles ont pas le couteau sous la gorge de dire bon bah je repars de zéro ou alors j'ai plus d'argent. Et ça, c'est quand même une belle avancée dans le monde des femmes.
Et c'était important de le souligner. Tu as raison. Merci beaucoup les GG. On peut refermer tranquillement la porte du vestiaire. On a bien compris que la fête c'était pas forcément votre truc. Voilà. Mais moi, je ne vous jette pas la pierre.
Qui on aurait pu inviter des GG qui adorent faire la teuf?
Des rugbymen.
Ouf, il y en a un paquet. J'ai l'impression que Christophe, il en a quelques-uns sous
toute
tapis.
Une liste, là. Je ne vais pas la balancer.
Mais Denis Charvet n'était pas dispo aujourd'hui?
Denis Charvet fait la fête, justement.
Jérôme Pinault fait la fête.
Et David, il fait la fête, David Douillet?
David sera là demain.
Il se tient très, très bien à table. Il aime beaucoup les bons dîners.
Ouais, il est bon vivant, quoi. Il aime bien manger. 11h25 sur RMC, les grandes gueules sur le buzzer, c'est dans quelques instants pour parler de la bataille des sexes, sans oublier les jeux du sport. Venez participer avec nous et remporter peut-être un PC portable. On vous attend pour cela au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi.
Il est 11h30 tout pile sur RMC. Les grandes gueules du sport continuent jusqu'à midi. Les jeux du sport, dans quelques instants, ils sont en pression autour du plateau. Avec un cadeau exceptionnel à gagner pour le vainqueur, un PC portable Altic. Pour cela, appelez-nous au 32-16 ou envoyez sport au 7-32-16. Mais d'abord, on va essayer d'aller un petit peu au Super G. Vous savez, Chris, je ne te l'apprends pas, qu'il y a évidemment du ski en ce moment. Ça se passe en Italie. On va retrouver David alias. Salut David. On a un Français d'Auxerre numéro 1, nous dit Chris. Quels autres Français on a au départ aujourd'hui? Dis-nous tout.
Absolument, Nick Salaigre vient d'ailleurs de s'élancer. Il avait le d'Auxerre numéro 1, c'est le premier, c'est celui qui ouvre cette piste aujourd'hui en descente. Et puis il est accompagné de sept autres Français qui s'élanceront un peu plus tard. Mathieu Bailey s'élancera en 25e position. Salut. Et puis il y aura d'autres Français: Blaise Gesendanner, Alban Elési Canaferina, Adrien Fréquet, Léo Ducrot, et puis les frères Alphand, Sam d'abord et Nils ensuite, alors que Nils Allègre est en train de dévaler la piste de Livigno en Italie, hein, qui accueille pour la première fois une manche de Coupe du Monde de Super G.
Merci beaucoup David, on fera le point avec toi évidemment dans cette matinée pour savoir ce qu'il se passe pour nos Français sur la piste italienne. Mais d'abord on va parler d'un événement qui fait beaucoup parler en ce moment, la bataille des sexes qui aura lieu demain. Match d'exhibition entre Arina Sabalenka et Nick Kyrgios, entre un homme et une femme donc, avec des règles spécifique qui, vous allez le voir, agace profondément nos GG.
RMC, les GG sur le buzzer.
Tennis is one of the only sports where men and women are able to compete against each other.
For him, it's a lose-lose. For me, it's the win-win, right?
Arena Sabalenka and Nick Kyrgios are going head-to-head in singles. It's going to happen in Dubai on December 28th.
It's going to be fun. It's going to be great high-level match for sure, and I'm going to kick his ass.
Now, Sabalenka said, I've got a lot of respect for Nick and his talent, but make no mistake, I'm ready to bring my A game. I am proud to represent women's tennis and be a part of this modern take of the iconic Battle of the Sexes.
I'm gonna kick his ass. Voilà ce qu'il a dit. Je vais pas traduire.
Ça veut dire quoi? Moi, je comprends pas bien.
Je vais lui botter ses fesses. Voilà comment je peux le traduire poliment. Frédéric, vous avez poussé votre petit coup de gueule, les GG. Pour cela, on va accueillir Sarah Pitkowski, qui aurait dû être avec nous depuis ce matin.
On a fini son marché de Noël.
Ben, on a eu un petit problème technique avec Sarah, la pauvre. Ça va, Sarah?
Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de belles fêtes. Oui, j'ai tenté de venir, mais il semblerait que c'était compliqué aujourd'hui.
C'était compliqué, effectivement.
Absolument.
Tu vas rester évidemment avec
mais
nous.
Mais je pense que sur ce débat, pense que personne sera contre moi.
Et c'est là qu'elle est la meilleure.
Si là, les problèmes techniques peuvent être contre toi jusqu'au bout, Sarah, ne parle pas trop vite. On va voir si ça se règle. En tout cas, je rappelle quand même le contexte. La bataille des sexes est un match d'exhibition de tennis entre un homme et une femme qui a été lancé il y a plus de 50 ans. À l'époque, entre Billie Jean King et Bobby Riggs, Riggs qui avait alors été battu avant de renouveler l'expérience quelques années plus tard et de battre cette fois-ci Margaret Court, avant que Jimmy Connors ne l'emporte face à Martina Navratilova. Nouvelle affiche annoncée pour cette année, demain donc entre Aryna Sabalenka et Nick Kyrgios. Mais ce qui fait beaucoup parler cette année, c'est que cette fois-ci les règles ont changé. L'Australien n'aura droit qu'à un service au lieu de deux et la Biélorusse devra couvrir moins de terrain que son adversaire. Règle inédite pour cette année et mise en place pour équilibrer les débats, mais elles font sauter aussi au plafond certains observateurs et notamment Billie Jean King, la première. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, les GG? Êtes-vous excité à l'idée de ce match ou trouvez-vous ça ridicule. Fallait que j'en fasse une en 3 heures. Vous êtes dur quand même. Ridicule. Alizé.
Non, ridicule, j'irai pas jusque-là. Je me trahirai, mais en tout cas, je suis pas très contente et pas très convaincue.
Fred.
C'est nul.
Comme ça, c'est clair.
Qui joue dans la modération.
Archi nul.
Oh. Sarah.
Mal en manché.
Fallait le trouver celui-là. Alors on va vous écouter, mesdames les tenniswomen, c'est votre monde, votre milieu aussi. C'est important aussi parce que vous êtes des femmes, donc c'est aussi important d'entendre ce discours-là. Alizé, quel est ton avis là-dessus?
J'attends de voir avec un peu de curiosité, mais pas trop non plus, parce que je trouve que c'est un énorme truc de com en fait. J'ai l'impression qu'il y a que de la com autour de ça et que finalement le jeu n'arrive qu'en second plan. Ces nouvelles règles, notamment celle d'avoir raccourci le court pour Sabalenka, je trouve ça mais d'une bêtise absolue. Autant la règle du service, ça peut se comprendre avec un joueur comme Nick Kyrgios qui peut faire
grosse caprice
dans un jeu. Je pense que si on a envie de donner un petit peu de spectacle aux gens, on n'a pas envie qu'il y ait que des aces. Donc ça, qu'on donne une balle de service à Nick Kyrgios, si on s'était arrêté là, ça aurait pu faire quelque chose de cool. Mais là, avec cette réduction du court, en plus, qui va même pas être suffisamment, on va même pas pouvoir l'observer, enfin, parce que c'est finalement, ça enlève quelques centimètres, je crois, du court. Enfin, c'est vraiment la symbolique, elle est absurde. Et ça donne pas une très, très bonne image du tennis féminin. Après, en termes de niveau de jeu, je pense qu'il va y avoir, il peut y avoir un bon match, de manière très factuelle. Mais par contre, tout ce qu'il y a autour, en fait, c'est vraiment un coup de com énorme et un coup de com pas très réussi. Donc, au final, moi, je suis quand même
mitigée.
Ouais, pas convaincue par le principe. Je trouve ça un peu dommage de le prendre par ce bout-là.
Sarah, quel est ton avis à toi? On parle notamment beaucoup de l'image du tennis féminin que ça renvoie. Hein.
Alors, il faut comprendre que les règles qu'ils ont choisies, je pense qu'ils se sont inspirés de celles de 92 où il y a eu l'opposition entre Jimmy Connors et Navratilova, puisqu'on avait donné un service à Jimmy Connors et on avait...
Eh ben, on n'aura pas la fin.
Ça avait bien commencé, par contre. Et on avait
du cours de Connors. Donc, on avait agrandi.
Bah alors, ça va être compliqué. Alors, avec le décalage, les problèmes techniques aussi. Moi, j'avais discuté un petit peu avec Sarah. Elle est comme toi, en fait. C'est-à-dire qu'elle regrette le fait que ce ne soit pas la même surface de terrain pour les deux. Et le discours principal qui est évoqué aussi, évidemment, c'est que de toute façon, que Sabalenka l'emporte ou perde, tout le monde avancera ses règles différentes pour les deux. En fait, c'est-à-dire que la victoire ou la défaite sera toujours justifiée par autre chose.
Moi, j'aimerais bien poser la question à Aryna Sabalenka. Qu'est-ce qu'elle en pense? Pourquoi en fait elle a accepté ces règles-là? Pourquoi elle a accepté de réduire le terrain alors que c'est la numéro 1 mondiale depuis 2 ans qu'elle domine de la tête et des épaules le circuit féminin? Elle peut quand même jouer sur un terrain normal contre Nick Kyrgios. On sait très bien que les filles et les garçons au plus haut niveau, on peut jouer ensemble du fond de court, il y a aucun problème. Alors après oui, quand le service entre en jeu, ça devient plus compliqué parce que les hommes sont très puissants.
C'est pas la même force, oui.
Moi, il m'est arrivé de m'entraîner avec des joueurs du top 50 sans aucun problème, même de faire des points sans service. Alors je ne gagnais pas, mais je pouvais faire des points, je pouvais me battre et me défendre. Donc là, c'est vraiment en fait diminuer et dévaloriser les capacités de Sabalenka, qui peut très bien tenir la dragée haute à Nick Kyrgios du fond du court. D'autant plus que Nick Kyrgios, il est quand même semi à la retraite.
Oui.
Il n'est pas entraîné, il a un genou gonflé comme un pamplemousse. Donc je veux dire, là, c'est quand même un petit peu absurde. Peut-être que même le choix du joueur en la personne de Nick Kyrgios, c'est pas le meilleur choix.
C'est presque
moi.
Un petit peu insultant aussi pour Arina Sabalenka, Fred.
Tout est catastrophique. Tout est catastrophique parce que c'est quoi la vision que vont avoir la plupart des gens du tennis féminin? C'est-à-dire qu'ils sont nuls, on est obligé d'adapter les règles parce que sinon elles ne peuvent pas. C'est quoi l'intérêt?
Mais on espère que les gens ont quand même la faculté de une faculté magnifique que tu n'as pas toujours qui s'appelle la réflexion.
Oui. Alors moi je n'ai pas toujours. Alors c'est quoi l'avantage? C'est que je l'ai pas toujours, mais la plupart des gens ne l'ont jamais. Oui. C'est déjà pas mal.
C'est vrai.
Ça se rebelle.
Dire quand même que les garçons ont des capacités physiques différentes. Oui. Et qu'au final c'est pas vraiment révélateur non plus de si une femme est nulle ou bonne au tennis. Quand on voit jouer Arina Sabalenka à l'année sur le circuit, on se rend compte que c'est monstrueux.
Tu regardes pas la télé en ce moment, donc tu vois pas ce qui se passe. Les gens sont plutôt
intégralement réduits pour certains. C'est pour ça que je compte sur la capacité de sur le bon sens et le sens critique des gens.
C'est beau. Encore une fois, un vœu pieux. J'aime beaucoup les vœux pieux que tu prononces, mais c'est catastrophique.
Je crois en l'humanité.
Moi je suis conscient des réalités.
En ce moment, c'est un peu dur.
Honnêtement, vu ce qui se passe actuellement, c'est un peu dur de croire à l'humanité. Mais juste, on va considérer que. Alors, quand elle dit win-win pour moi, lose-lose pour lui, je pense que c'est l'inverse.
Elle a tort.
Je pense que c'est l'inverse, parce que si Kyrgios gagne, tout le monde va dire,
c'est le mec,
il a un genou en vrac, il a pas joué depuis je sais pas combien de temps.
Et en plus,
il la défonce. Et s'il perd, tout le monde va dire, bah attends, normal, il a un genou en vrac. Ouais.
Bien sûr, c'est pour ça. Donc, elle a tout à perdre.
C'est elle qui a tout à perdre. Ouais. L'image du tennis a tout à perdre, parce que le tennis féminin est un sport magnifique. Sauf que là, on est en train de dire que si tu mets pas un garçon pourri pour jouer contre elle, il y a pas d'intérêt.
Et
en plus, sur un court raccourci, je peux pas entendre, vous, les tenniswomen, que vous puissiez dire que c'est pas si grave que ça. C'est extrêmement grave. Déjà, opposer les gens, je trouve ça extrêmement grave. Le tennis féminin est fantastique en soi. Le tennis masculin est fantastique en soi. Ne mélangeons pas. C'est comme si on faisait un combat de boxe, Christophe et moi. Il a zéro chance. Ça n'a aucun intérêt.
Après, l'idée de base est pas inutile.
Depuis qu'on a inventé les guns, c'est toi qui aurais aucune chance, mon gars.
Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a des catégories de poids, il y a des hommes et des femmes.
En fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut prendre un peu de recul aussi. C'est un coup de com. C'est rien d'autre que ça. Oui, elle est ratée. C'est exactement ce que j'ai dit au début.
Oui, mais donc si elle est ratée, quel est l'intérêt?
Je l'ignore.
C'est un match d'exhibition pourri.
Mais prenons du recul sur les capacités de chacun, les capacités tennistiques de chacun. Enfin, ça sera pas
révélateur. Ça va juste donner des billes à ceux qui ne connaissent pas le tennis féminin.
Des gens vont regarder, a priori.
Surtout sur les gens qui ne connaissent pas le tennis, ça peut complètement biaiser les opinions.
Et en même temps,
comme le dit Flora, ça peut aussi amener des gens à regarder.
La curiosité fera que.
La curiosité morbide, je trouve.
Ouais. Morbide, carrément.
Non, mais franchement, ça sent le réchauffer en plus tout ça. Parce que rappelez-vous le premier combat dans les années 70, ça avait vraiment fait du bien au tennis féminin quand Billie Jean King s'était imposée face à cette espèce de vieux ringard de Bobby Rigg, qui était complètement macho.
Il y avait un vrai message aussi.
Il y avait un vrai message et je pense que ça a donné un élan. Au tennis féminin, qui a connu ses années d'or derrière, je veux dire, les Chris Evert, les Martina Navratilova, ont été quand même les plus grandes championnes de l'histoire de ce sport, même si on a eu d'autres depuis. Et c'est vrai qu'à l'époque, le tennis féminin n'avait pas la place qu'il occupe, les championnes n'étaient pas aussi valorisées qu'elles le sont devenues par la suite, et elles étaient bien moins payées que les hommes à l'époque, hein. Il y avait vraiment une vraie différence de salaire et le prize money. Là, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match? Franchement, j'en attends rien. C'est un peu comme le combat de la semaine dernière entre Jack Paul et Anthony Joshua. C'est le sport spectacle par excellence. On veut faire du buzz et on veut attirer des gens devant la télé en leur proposant un spectacle un peu différent. Mais différent en quoi?
La curiosité va quand même pousser certaines personnes à regarder, je pense. Moi y compris.
Mais comment en plus, comment Sabalenka, qui est une grande championne, puisse accepter d'avoir un cours qui fait 9%
moins? Moi c'est plus ça qui me questionne, ça veut dire qu'elle est censée quand même défendre, j'entends, mais elle peut très bien dire ok, je prends le chèque, mais quand même j'impose un peu mes conditions.
Oui,
il la voulait, elle est l'humeur à mondial, elle a quand même son mot à dire. Non, c'est parce qu'en fait je pense qu'elle était d'accord et qu'elle a oublié de défendre la cause du tennis féminin.
Eh ben c'est grave
pour l'argent,
parce que
ça m'inquiète pour celle qui est censée quand même nous représenter au plus haut niveau. De ne pas prendre ces choses là en considération, c'est inquiétant, je te l'accorde,
parce que là elle a tout à perdre et le tennis féminin a tout à perdre. Si elle perd, on va se gosser sur les réseaux sociaux, même avec un petit terrain, même avec deux services contre un service pour Kyrgios, les gonzesses sont même pas capables de battre un mec qui a un genou en vrac.
Mais c'est quand même
on dira oui, mais regardez, elle avait deux services.
Mais Il y aura aussi les sans opinion
qui ne sauront pas exactement comment juger, et en voyant ça, vont dire ah oui, effectivement, là on voit la différence, le tennis féminin c'est nul.
Mais moi, je vous assure que du fond, il n'y aura pas de différence. Il n'y aura pas tant de différence que ça.
On rappellera toujours, et je suis d'accord avec Christophe, que le terrain est plus petit d'un côté et qu'il y en a un qui n'a qu'un seul service.
Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire d'autres règles différentes? Certains évoquent
des trucs un peu fun, avec des, comme un peu l'UTS de Patrick Mouratoglou, avec des cartes à jouer, des sortes de cartes joker. Ça aurait été interactif, ça aurait été
souvent une vraie exhibition.
Une vraie exhibition par un match, finalement, quelque chose d'un peu ludique. Mmh. Et là, ça aurait été sympa. Mais bon, là, ça perd complètement sa crédibilité de match de tennis, en fait.
On verra si vous serez devant votre télé demain.
Le problème, c'est que le sport se dirige de plus en plus vers ce genre d'événements.
Et on le voit.
Tout ça pour attirer, pour faire le buzz sur les réseaux sociaux, pour attirer du monde devant les écrans. Et que c'est pas ma conception du sport. Franchement, ça me...
On verra ce que ça donne dimanche, en tout cas, pour cette bataille d'essais. On va faire un détour par le Super G qui se déroule en ce moment. David, dis-nous tout. Où est-ce qu'en sont nos Français, notamment Nils Allègre?
Eh bien, pour l'instant, Flora, Nils Allègre est deuxième parce que la course est interrompue après la chute de l'Autrichien Asser qui vient de tomber en milieu de parcours. Il y a beaucoup d'erreurs techniques. On est surpris alors que les conditions sont extrêmement bonnes aujourd'hui. Beaucoup d'erreurs techniques en milieu de parcours, et du coup, ça donne une très bonne position pour l'instant pour le Français Nils Allègre qui a fait une descente très propre et qui a 48 centièmes de retard. Pour l'instant, avec une énorme surprise aussi, puisque Vincent Krichmayr, qui était attendu comme l'un des deux favoris avec le Suisse Marco Odermatt, qui est lui aussi tombé et qui permet justement à Nils Allègre de rester en deuxième position.
Merci beaucoup David. 11h44 sur RMC. Les GG du sport sont bientôt au repos, mais avant de se quitter quand même, les jeux du sport arrivent dans quelques instants. Restez bien avec nous, on va voir qui est le plus fort ce matin. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Messi.
Allez, il est l'heure de jouer dans les grandes gueules du sport. Christophe Cessieu, Alizé Cornet, Fred Weiss et un petit renfort de poids ce matin.
Ah, de poids. Oui,
c'est pas très flatteur de dire ça. Pierre-Yves Leroux, notre commentateur émérite qu'on entend partout sur le foot, sur le cyclisme, sur le rugby parfois. Tu es multitasker.
Donc le mec connaît tout.
T'as bien compris, effectivement. Un petit renfort qui va nous faire du bien. Allez, c'est parti pour les jeux du sport.
RMC, les jeux du sport.
Avec beaucoup d'enjeux, on vous le rappelle aujourd'hui, puisqu'il y a un PC portable de la marque Altic à remporter tout à l'heure. On va accueillir nos deux auditeurs du jour, Pierre et Fanny. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, mesdames.
Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va vous rappeler les règles quand même. Un point par bonne réponse. Si vous donnez une mauvaise réponse, je vous retire un point. Il y aura la question à élimination aussi. Chaque fois que vous citez une bonne réponse, vous avez un point supplémentaire. Et il y aura aussi à dispo la question impossible. Apparemment, je me suis trompée dans les règles.
Oui,
alors,
j'aime pas du tout ça.
Parce qu'apparemment, c'est une question impossible par personne, c'est ça?
Ouais.
Voilà,
ouais,
là, il n'y en a qu'une seule. Voilà. Donc ce sera surprise.
Parce que normalement c'est
encore
une question.
Je débute dans le métier. Donc, à vos risques et périls.
Oui,
alors Pierre, tu as appelé en premier. Je vais vous donner les deux équipes. On va voir le duo du Tour de France. Pierre-Yves avec Christophe et le duo infernal.
Mais je vais Alizé,
il a la
grippe, bon, il a 42 fièvres.
Moi, ce que je vous propose, c'est que je parte directement.
Alors, parce que quand Pierre, on joue avec Alizé, Pierre, on tu as appelé pas. En premier. Ça, c'est vrai. Ça, je te laisse choisir ton équipe. Avec qui tu veux être?
Ah, bah, avec ça.
Bah, j'aime beaucoup trop le basket, donc je vais choisir Fred et Alizé.
Très bien. Fanny, du coup, tu te retrouves avec Christophe et Pierre-Yves Leroux.
Non, on va tout donner, on va tout donner, je te rassure.
Oui, mais toute ta vie, t'as tout donné et t'as pas réglé.
Bah oui, c'est vrai.
Allez, c'est parti. Je vous rappelle. Alors, la première question, c'est parti.
Jean-Louis, une seule réponse ou non?
Une seule réponse.
Fred.
Jean-Louis Gasset nous a malheureusement quitté hier à l'âge de 72 ans. Pouvez-vous me citer la seule sélection à la tête de la
Côte
d'Ivoire? Il a été. Bonne réponse, Christophe.
C'était quoi la question?
Quelle sélection a entraîné Jean-Louis Gasset?
Oh.
Deuxième question pour vous, les GG. Celui qui est le plus proche gagne. Stephen Curry, le meneur des Golden State Warriors, a passé un cap lors du dernier match face à Dallas. Pouvez-vous me dire combien de points en carrière a-t-il dépassé?
Oh.
Le plus proche gagne.
C'est injouable.
Savoir.
À Fred, là, c'est pression.
Ouais, c'est trop de pression.
Fred va nous donner la base.
Non, mais c'est injouable. J'ai dit une connerie. On peut dire un chacun et une réponse chacun?
Ouais.
Non, tu peux. Dis non!
Allez,
il y a Kylian qui est en train de lui souffler.
Non, c'est moi qui ai soufflé à Kylian.
Fred, allez, une réponse.
Je peux 25 000.
25 000 ?
J'ai 10 000.
Ok, Christophe.
J'ai 26 000, moi.
26 227, je crois.
Très bien. Eh bien, on a un tout pile.
Non.
Bonne réponse de Christophe. Oh, 26 000, effectivement.
Ouais, c'est sérieux.
Il a dépassé les 26 000 points. T'étais pas loin en même temps, Fred.
Mais non, il a 26 227.
Oui, parce que je suis allé un peu plus
voilà,
loin.
Voilà, mais il a dépassé les 26 000. De toute façon, vous êtes dans la même équipe. Hein. Donc,
j'attendais la réponse de Fred.
Benoît Père dirait quelque chose que je ne répéterai pas.
Allez, on enchaîne avec une question. S'il vous plaît. Une question pour les auditeurs. J'espère que vous êtes à l'écoute, Pierre et Fanny. Question de rapidité. Qui est le tenant du titre de la Coupe d'Afrique des Nations?
La Côte d'Ivoire.
Bonne réponse, Pierre.
Oh, t'as heureusement qu'il est là.
Oui, heureusement.
Ça équilibre un petit peu, ça vous donne un petit point quand même. On enchaîne les GG, on reste sur la CAN. Pouvez-vous me dire qui est le meilleur buteur de l'histoire de la compétition? Allez.
Roger Milla.
Non, c'est une mauvaise réponse. Donc vous perdez un point du coup, Chris.
Ah, pourquoi c'est éliminatoire?
Ah non,
ouais.
Ça marche pas comme ça.
Non.
D'accord.
Moi, si, moi, c'est bien.
Ça a pas du tout. C'est quoi ces nouvelles règles? Je vais quitter la table, fais gaffe.
Et tout.
Bonne réponse.
Mais non. Bravo.
Samuel Eto'o avec 18 buts.
Je suis meilleur en foot qu'en basket en fait.
Quatrième question. Manchester United a joué hier le seul match du Boxing Day face à Newcastle. Les Red Devils sont encore une fois très loin au classement. Mais de quand date le dernier titre de champion d'Angleterre de Manchester United?
2007.
C'est une mauvaise réponse.
Et c'est le plus proche après ou non?
Bon, on va peut-être faire un plus proche parce que je sens que vous allez, ça va être
2008.
Difficile. T'as dit deux. Bah, j'ai dit 8. Ok. Quelles sont vos réponses? Alizé, Pierre-Yves.
Vas-y,
2010.
C'est une bonne réponse d'Alizé. C'est 2013. 2013, le dernier titre de champion. Question pour les auditeurs. Pierre et Fanny, attention, question de rapidité. Je vous demande de quelle nationalité est Arina Sabalenka?
Biélorusse.
Oui.
Alors, c'est la question pour les auditeurs.
Un point en moins.
Non, point, là, il y a un point en moins.
Point pour notre équipe.
Vous voyez ma tête.
Alors, juste, c'est la première fois qu'elle a une réponse. De un. Et de deux, vous avez vu la joie que, sur mais son visage de se tromper. Mais elle était contente quand même.
Et non, je me suis concentrée.
C'était Biélorusse, évidemment.
On va faire une pour les auditeurs. Pour mais du coup,
je vous enlève une réponse, forcément. Donc, on est à deux partout, quand même, hein, toujours. Oui. Donc, c'est très serré. Cinquième question pour les GG, cette fois-ci.
Attends, pourquoi deux partout?
Parce que tu nous as enlevé un point.
Je vous demande en quelle année Nick Kyrgios a-t-il disputé sa seule finale de Grand Chelem?
2022.
Bonne réponse.
Allez! Je sais
ça, c'est Appelons Sport, s'il te plaît.
Il y
a du sport et du basket, on voit que c'est.
Question pour toi. Vélo. Attention. Sixième question, celui qui est le plus proche gagne.
Ouais.
Combien de titres de champion du monde de cyclocross a Mathieu Van Der Poel?
5. Il n'y a qu'une réponse. Hein.
Non,
Allez,
8.
Calme-toi. Attends.
8.
7, moi, cher.
Ouais. Moi aussi, j'allais dire 7. On va partir sur 8.
On a un tout pile. 7, c'est une bonne réponse. Il vise le 8e. Attention, vous prenez une avance. Attention,
mais
question auditeur.
C'est les deux cyclismes, là, j'ai pas compris.
Question auditeur.
Oh, ça m'énerve, ce jeu.
C'est aux auditeurs de répondre, Pierre et Fanny. Attention, il y a une légère avance pour toi. Vous êtes à 4-2 avec Alizé et Fred. Question, je vous demande qui est la nouvelle recrue de l'Olympique Lyonnais.
Hendrick.
Ah, dommage Fanny, c'était pas assez rapide, mais bonne réponse de Pierre. Hendrick, effectivement. On passe à la question à élimination.
Ah, oh. Oh, c'est horrible ça.
Attention, je vous demande chacun votre tour, les GG, de me citer les 22 pilotes qui seront en lice pour la saison prochaine de Formule 1. Non, chacun votre tour.
J'en connais pas un.
Vous me dites un nom, et si vous ne trouvez pas, vous êtes éliminé.
Je peux commencer ?
Vas-y, Alizé.
Merci à peine.
Bonne réponse. Fred.
Bah, il vaut mieux que ce soit un de chez eux.
Eh oui.
C'est plus logique.
Eh oui, Open. C'est une bonne réponse.
Après.
Fred.
Hadjar.
Bonne réponse. Chris.
Hamilton.
Oh non, j'allais le dire.
Bonne réponse, Hamilton. Alizé.
Non, je sais pas. Gasly.
Bonne réponse. Pile.
Ah, les sports mécaniques.
C'est pas
3, 2, 1, c'est fini. Allez, suivant.
Ah, t'es comme ça, toi, tu fais un.
Bah, c'est comme ça que tu fais, genre.
Ouais, vas-y,
allez,
vas-y. Ouais.
C'est parti. On vous êtes plus que 3. Chris.
Norris.
Ah oui, Fred, pardon.
Norris.
Excuse-moi. Bonne réponse. Chris.
Alonso.
Est-ce que je l'ai ? Oui, c'est une bonne réponse.
Non. Non, j'ai pas, là, j'ai plus.
T'as pu, Alizé ? Non. Terminé, vous êtes plus que 2. Fred, c'est à toi.
On a dit Ocon ?
Oui, elle était dit.
Donc, pas lui.
C'est fini, Fred.
Antonelli.
Bonne réponse. Il y en avait encore plein. Il y avait Piastri,
Je cherchais
Charles Leclerc.
Oui, mais je trouvais plus Piastri dans ma tête. C'est celui que je cherchais.
Du coup, on est à 5 à 3.
Comment ça, 5 à 3
Donc on a gagné.
5 à 3, ouais. Ah, bah oui, ils avaient pris un petit peu d'avance.
Ça faisait 5-2 pour nous.
Mais là, c'est
oui,
2 points.
Ah, bah 5-4, ouais, c'est pareil, 5-4, on a gagné.
C'est fini, 5-4. Non, il n'y a pas de problème.
Non, fallait compter toutes les bonnes réponses.
Non, pas du tout. C'est 2 points pour le truc.
Points. Donc on est à 5-4.
Personne ne m'a donné les règles de ce
groupe.
Kylian me dit 5-5.
Non,
5-5.
C'est lui qui sait compter.
5-5.
Il faut les partager.
Mais là,
une dernière question. Attention, qui va vous départager. Demain soir, La Rochelle défie Toulouse en clôture de la 13e journée de Top 14. Pouvez-vous me dire quel classement sont les Rochelais en Top 14?
7.
Bonne réponse.
Oh, yes. Sur le rugby en plus.
Tu sais.
C'est un hasard complet.
Bravo Fred, non, grâce à toi, Pierre remporte le PC aujourd'hui, le PC portable. Bravo à toi.
Mais il y a les voix, les voix du Seigneur.
Non, mais c'est lui à la vitesse où j'ai répondu. Il n'a pas eu le temps de me souffler là.
Les voix du Seigneur sont impénétrables.
Il n'a pas eu le temps de me souffler.
Allez, la victoire pour Pierre aussi qui remporte le PC portable.
Continue avec le basket.
Aujourd'hui.
Jouez au jeu du sport sur RMC et gagnez un PC portable Altic 16 pouces garanti 3 ans. Altic, la marque française d'ordinateurs basée à Nantes. Rendez-vous sur altic.com.
Merci à vous les GG d'avoir été avec moi.
Bravo
ce matin.
Flo.
Merci à tous. On se retrouve demain dès 9h avec David Douillet qui viendra en renfort dans l'équipe. Merci Pierre-Yves d'avoir été avec nous sur les GG. Restez bien sur RMC.
Retourne à la rédaction en chef. Hein, tu n'as pas été dans un grand support là.
Allez, restez bien sur RMC dans quelques instants. Les paris RMC arrivent tout de suite. À tout.
Jusqu'à 13h.
Les paris RMC.